Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h16 sur Europe 1, le temps d'accueillir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Bien, bien. Bon.
Alors, vous êtes chez vous ?
Oui, tout à fait.
Et comment ça se passe ?
Oh, ça se passe bien.
Oui ?
Ça se passe bien. Bon, on a connu des temps meilleurs. C'est pas toujours facile de rester chez soi et de ne pas pouvoir sortir comme on le veut, mais bon... Ce n'est pas trop compliqué quand même.
Bon, alors je crois que vous vouliez me parler de mode un peu ce soir, Marie-Christine.
Oui, j'avais envie éventuellement de vous parler de ma carrière de mannequin et de quelques petites anecdotes qui me sont arrivées durant cette grande carrière qui s'est terminée déjà il y a longtemps.
Oui.
Il y a longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière en 1966, donc ça fait il y a très très longtemps.
D'accord, d'accord. La mode en 66 rayonnait déjà en France ?
Oui, tout à fait. C'était l'époque où, si on voulait devenir mannequin, il fallait prendre des cours.
Oui.
C'était la meilleure école, c'était l'école de Lucky, le grand mannequin qui avait été chez Dior.
Oui.
Qui avait monté son école des mannequins de Paris. Et donc, pendant 3 mois, on prenait des cours chez Lucky, elle qui était déjà décédée à l'époque, et c'était une de ses amies qui était la directrice.
D'accord. Et donc, vous avez fait donc cette école à l'époque.
Voilà. C'était une école qui durait... C'était des cours... c'est une école privée, donc ça a duré 3 mois. On apprenait à marcher, on apprenait à se maquiller, toutes les choses que l'on devait savoir pour présenter une collection haute couture. C'était vraiment une formation de mannequin que l'on appelait à l'époque haute couture.
Je suis très content que vous m'appeliez ce soir pour qu'on parle un peu de la haute couture, parce que, bien évidemment, après avoir recueilli votre témoignage donc de ces jeunes années de mannequinat, et que vous nous aurez parlé de la mode à l'époque, je recueillerai bien évidemment votre avis sur le monde de la haute couture aujourd'hui, en tout cas de la mode, qui est bien évidemment très importante. Hein. On avait une Fashion Week quelques semaines avant le confinement, me semble-t-il, à Paris.
Oui, oui.
Alors, vous me disiez que c'était à l'époque très... Déjà, la mode française avait... elle tenait le haut du pavé, déjà, à l'époque.
Oui, parce que la haute couture donnait un petit peu le style... pour la saison et toutes les boutiques et tous les créateurs de prêt-à-porter prenaient un petit peu les idées de la haute couture lorsque c'était la mode des jupes longues, le prêt-à-porter copiait un peu et tout le monde était en jupe longue. Quand ça a été la mode des jupes courtes, tout le monde a copié un petit peu les jupes courtes, bien qu'en haute couture, on soit toujours resté relativement raisonnable, à part Courrèges, qui a beaucoup raccourci et qui avait vraiment son style très court. La haute couture est quand même restée bon chic, bon genre, on va dire.
Oui, parce que Courrèges a révolutionné la haute couture à l'époque.
Tout à fait. C'est dommage parce que moi, personnellement, je n'ai pas travaillé pour Courrèges parce qu'il prenait des mannequins assez carrés.
Oui.
Et je n'étais pas le style Courrèges. Moi, j'étais plutôt le style Saint-Laurent.
D'accord. Bon, qui est pas mal non plus.
Oui.
Hein?
Qui est vraiment pour moi un très très bon souvenir d'ailleurs.
Ah oui,
pour moi,
c'est
mon meilleur souvenir. J'ai travaillé pour Lanvin, pour Gray, pour Balmain, où j'ai commencé ma carrière de mannequin.
Donc avec Karl Lagerfeld ou
il était
où Karl Lagerfeld?
Non,
il n'était pas encore là.
N'était pas encore là à l'époque. Non. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que la mode, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de lignes que tout le monde suit. Chacun fait un peu ce qu'il veut.
Oui. Je vous avouerai que je porte un regard assez acide, moi, sur la mode, sur la haute couture.
Oui.
Je trouve... Voilà, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour voilà, tout ça. Je trouve finalement que la mode pille les époques, pille les styles. Et j'ai un peu... Voilà, c'est, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai vu le punk arriver même dans la haute couture, où je me suis dit qu'il n'y avait aucune règle finalement, que la haute couture s'appropriait tout, qu'elle pillait tout pour recommencer sous une autre forme. Bon, voilà. Et puis, y a ces mannequins quand même. J'ai beaucoup de mal, moi, avec ces mannequins aujourd'hui qui sont vraiment squelettiques, quoi. C'est, je trouve que la représentation de la femme dans la haute couture, bien que ces derniers temps, j'ai remarqué une certaine amélioration en ayant vu des mannequins qui étaient à nouveau un peu plus en chair, sans être vraiment très en chair, mais quel regard vous portez sur justement cette représentation de la femme à travers la mannequin très longiligne, avec cette démarche un peu lunaire? C'était pas comme ça, vous, de votre temps?
Non, il y avait, les mannequins étaient quand même très très minces en haute couture. On était mince, mais c'était, on dirait, un 38-40 aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'était pas aussi maigre. Bon, à l'époque, je ne vous souvenez pas, mais il y a juste un mannequin qui s'appelait Twiggy, qui, elle, était très 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 maigre. Mais en dehors de Twiggy, toutes les autres étaient quand même, avaient une taille, on va dire, normale, hein, d'un 38. Mais il fallait quand même être très mince. Hein.
Oui, mais un 38-40, vous noterez qu'aujourd'hui, c'est une silhouette. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces mannequins qui sont... Ça équivaut à quoi, aujourd'hui, la taille de ces mannequins?
Un 34.
Un 34, vous voyez, il y a quand même une large différence. Et puis... en fait, je trouve que la haute couture représentait beaucoup plus la femme d'une manière très très large, en fait, à travers ces mannequins, notamment dans les années 90. Vous voyez aussi avec Cindy Crawford, avec Estelle Lefébure aussi un peu plus tard, avec je n'ai plus tous les noms de ces mannequins, mais qui étaient quand même en forme, qui on pouvait voir dans la rue des femmes ayant les mensurations de ces mannequins. Or, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'échappe.
Je crois que c'est surtout que les stylistes ont choisi des mannequins de plus en plus jeunes.
Oui. Et vous qui avez été dans... Vous entretenez quelques relations encore avec la haute couture aujourd'hui ou...
Non.
Vous n'avez pas idée du pourquoi ces mannequins squelettiques, anorexiques, c'est...
Je pense que c'est effectivement un choix des stylistes qui ont... c'est surtout le fait qu'elles aient 15 ans, par exemple. Forcément, elles ne sont pas formées. Pour la plupart, elles sont quand même... Elles sont minces, en règle générale.
Oui, très minces.
C'est question d'âge. Et c'est pour cela que maintenant, je pense que ça disparaît progressivement. On prend de plus en plus de jeunes filles, quand même, qui n'ont plus cette taille... les lois qui sont passées interdisent quand même
il en reste quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'on note une amélioration ces derniers temps. Vous vouliez parler de quelques anecdotes, en fait. Racontez-moi un peu.
Oui, dans les anecdotes de mannequins, il y en a pas mal, mais c'était une anecdote où j'étais partie avec la cabine, ce qu'on appelle la cabine Balmain et tous les mannequins. Nous étions partis faire un défilé à Wiesbaden.
Oui.
Et nous faisions donc un défilé. C'était ce jour-là, c'était le bal des débutantes. Donc il y avait énormément de monde, tout le monde était habillé, bien entendu, en robe du soir. Il y avait un grand dîner et les mannequins de chez Balmain présentaient la nouvelle collection à la fin du dîner.
Oui.
Et c'était un endroit, donc le Kurhaus de Wiesbaden, c'est très très grand, et il y avait un orchestre devant l'orchestre, il y avait un immense escalier qui descendait vers les tables où étaient les personnes.
Mmh.
Et nous arrivions à côté de l'orchestre et nous descendions les escaliers.
D'accord.
Et chacune, l'une après l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprenait à faire à l'école Lucky, c'était de descendre des escaliers sans regarder les marches, bien entendu.
Oui, oui, oui.
Et donc, on avait à peu près 5 modèles à présenter chacune. Il y avait 6 ou 7 mannequins. Et nous étions 2 à être un peu myopes. Et à cette époque-là, c'était le tout début des verres de contact,
oui.
Et nous n'en avions pas encore. Donc, on répétait un peu, on a répété le défilé l'après-midi avec les lumières. Et le soir, bien entendu, toutes les lumières se sont éteintes et il y avait juste une petite poursuite qui suivait le mannequin qui descendait les marches.
Mm-hmm.
Donc, le plus difficile, c'était de ne pas rater la première marche pour pouvoir avoir la suivante et bien descendre l'escalier sans tomber.
Oui.
Et donc, ça commence très bien. J'ai une de mes amies qui me dit qu'elle aussi ne voyait pas très bien. Elle me dit, écoute, tu tâtes un petit peu avec le bout de ton escarpin et tu verras, ça se passe très bien. Dès que tu as la première marche, tout va bien. Donc, les 3 premiers modèles vont bien, c'est-à-dire que j'attrape bien la première marche.
Oui.
Et arrive la robe du soir, dont je me souviens très très bien comment elle était. C'était une magnifique robe du soir en lamé argent. J'avais de beaux escarpins assortis et j'arrive donc seule devant l'orchestre. Je m'apprête à descendre l'escalier quand soudain tout bascule. J'ai le bout du pied de ma chaussure sur la deuxième marche et le talon sur la première.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Donc je déséquilibre, bien entendu. J'évite le plongeon, la tête la première, c'est-à-dire le pire,
oui.
Et je me retrouve assise sur les marches avec ma ballerine, ma chaussure à talons plutôt, c'est pas une ballerine, qui continue de descendre l'escalier sans moi. Et je me souviens que pendant ma chute, un cri d'effroi s'est échappé de toutes les gorges. Et toutes les personnes ont eu très très peur pour moi. Et je me suis relevée tranquillement. J'ai descendu toutes les marches un peu clopin-clopant.
Oui, vous n'avez pas paniqué?
Non, j'ai rechaussé tranquillement ma chaussure. Et c'est sous les applaudissements du public que je me suis dirigée vers la sortie, pour après refaire un 5e passage avec encore une robe du soir. Et là, ça s'est très très bien passé, mais j'avoue que le 5e passage, j'ai vraiment essayé d'avoir la première marche, et j'ai senti un peu que le public retenait un peu son haleine en me voyant arriver, en se disant, est-ce qu'elle a encore raté la première marche? Et alors après, j'étais un petit peu inquiète parce que Pierre Balmain était dans la salle. Et donc, j'étais un peu inquiète. Je me disais, mais que va-t-il me dire? Et là, il a été très sympathique. Il est arrivé dans la cabine. Il a dit, vous avez été merveilleuse. Les personnes autour de moi ont dit que vous vous étiez relevée avec une classe, un charme tout à fait parisien.
Très bien.
Et Pierre Balmain m'a serré dans ses bras et ça m'a fait un beau souvenir parce qu'il n'avait pas l'habitude de serrer ses mannequins dans ses bras. Voilà, c'est un beau souvenir que j'ai de Pierre Balmain.
Vous m'avez dit avoir défilé pour Saint-Laurent aussi.
Oui.
Vous avez connu Monsieur Saint-Laurent donc?
Bien sûr.
Parlez-nous un peu de lui parce que c'est bien évidemment un grand personnage de la haute couture,
oui.
Mais il était, enfin je sais pas, il dégage quelque chose d'assez spécial cet homme, et en même temps d'une gentillesse en tout cas, voilà, il dégageait quelque chose de très bon, très positif cet homme, comment était-il?
Tout à fait, il était, Il était charmant, vraiment, il était adorable. La relation avec lui était très sympathique, avec Pierre Berger aussi d'ailleurs. Le premier jour de la presse, je me souviens que on était tous ensemble. Et Pierre Berger nous prenait la main avant les passages, et c'est lui qui régissait tout le défilé de presse, et il était extrêmement présent. Et et après nous allions tous déjeuner ensemble. Il y avait une grande convivialité, je trouve. Et c'était une cabine très sympathique, qui n'a pas été le cas de toutes les cabines où je suis allée. Mm-hmm. Vous savez, ces cabines, c'est-à-dire que c'était les mannequins choisis pour toute la saison. On signait un contrat de six mois.
Oui.
Et j'avoue que cette cabine Saint-Laurent a été un très très bon souvenir. Tous les mannequins qui étaient là, il y en avait quelques-unes qui étaient là depuis plusieurs années. Il y a toujours quelques mannequins qui restent plusieurs années, enfin qui restaient à l'époque plusieurs années. C'était un peu les préférés de Saint-Laurent. Ils faisaient beaucoup, ils créaient surtout sur elle.
D'accord.
Et il y avait celles qui changeaient à chaque fois. C'était souvent les dernières arrivées, d'ailleurs, qui restaient juste 6 mois pour la saison.
Est-ce qu'à l'époque, on gagnait très bien sa vie en tant que mannequin à cette époque-là? Parce que je sais qu'il y a eu un moment où être mannequin en haute couture était quelque chose de très bien rémunéré. Est-ce que déjà en 66, comme ça, c'était quelque chose de bien payé?
Alors moi, chez Saint-Laurent, j'étais en 68, après mai 68. Je suis rentrée chez Saint-Laurent pour la collection d'hiver. C'était la saison où il a créé la robe complètement transparente. La fourrure Stambach qui a été vendue d'ailleurs il y a quelque temps à Drouot. Mm-hmm. On était pas mal payé par rapport à la moyenne des gens qui travaillaient on va dire normalement dans les boutiques mais on n'était pas très très bien payé.
On gagnait normalement sa vie, quoi, en fait.
Voilà, on gagnait normalement sa vie. La seule chose, c'est qu'on ne travaillait pas beaucoup, puisque à part le mois précédent la sortie des collections, nous étions là toute la journée pour ce qu'on appelait la pause de la collection. Mais après, nous ne venions que 2 heures l'après-midi pour passer la collection. Voilà, pendant les 5 mois qui restaient. Donc, en présence, après, on ne restait pas très longtemps. Par contre, à l'époque, être mannequin chez Saint-Laurent ou être mannequin chez Grey, c'était un label, on va dire, entre guillemets.
Vous avez voyagé un peu quand même.
Exactement. On voyageait beaucoup. Il y avait des couturiers qui voyageaient énormément. Nina Ricci, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, voyageait énormément parce qu'ils faisaient beaucoup de publicité pour leurs parfums. Donc ils voyageaient énormément. Avec Saint-Laurent, je n'ai pas beaucoup voyagé avec Saint-Laurent.
D'accord. Il n'y avait pas déjà ce système de semaine de la haute couture à Milan, à New York, à Paris. Il n'y avait pas ça déjà, en fait. C'était moins développé. Aujourd'hui, l'industrie de la mode est tout de même représentée par ces fashion week là. On est dans un faste incroyable même.
Oui, parce que chaque maison de couture donc avait ses mannequins et qui restaient pendant 6 mois déjà. On avait juste un mois à peu près ou 3 semaines de presse avec tous les journalistes, qui venaient. Mais ils venaient. Moi, c'était l'époque où Saint-Laurent était rue Spontini dans le 16e.
D'accord.
dans le premier hôtel particulier où ils se sont installés. Et Nina Ricci, c'était pareil, c'était rue des Capucines, tu faisais ça dans leur salon.
Bon. Ah oui, d'accord.
Oui, c'était totalement différent. Un peu comme, bon, Dior faisait ça aussi, Avenue Montaigne. Par contre, j'ai un grand regret, je n'ai jamais travaillé pour Chanel.
Ah oui, comment se fait-il ?
Mais quand elle ne faisait pas de sélection, Chanel, ne faisait pas de sélection, Coco, elle donnait rendez-vous à des mannequins et elle les sélectionnait comme ça, elle disait oui, elle disait non. Et le jour où elle m'a convoquée, elle m'a fait attendre pendant 3 heures. J'ai attendu 3 heures. Au bout de 3 heures, je suis allée voir une vendeuse. Je lui ai dit, j'attends encore combien de temps? Elle m'a dit, ah ben je suis désolée, mais Coco n'a pas envie de vous recevoir aujourd'hui.
Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un film sur Karl Lagerfeld.
Ouais.
Et j'ai vu une interview de Coco Chanel qui était vraiment pas du tout tendre. Ça avait l'air d'être une femme vraiment de caractère et qui tenait des propos très très agressif et très limite. Donc cette dame n'avait pas l'air d'être elle avait un drôle de caractère, donc peut-être n'avez-vous rien raté, ma chère.
Non, c'est vrai. Non. Alors du coup j'ai été très vexée, j'ai dit non, je ne reviendrai pas demain.
Et ben voilà,
du coup, nous ne nous sommes jamais revus, nous ne nous sommes jamais vus en fin de compte avec Coco Chanel. Donc c'est vrai que c'est une des maisons de couture pour laquelle je n'ai jamais travaillé, bien que à une époque, donc j'avais eu envie de... Mais c'est vrai qu'elle avait ses états d'âme, elle avait elle était très surprenante, on va dire. Je sais que j'ai entendu aussi beaucoup d'histoires sur elle et ses mannequins. Elle pouvait vous licencier en 5 minutes.
Mais je crois qu'elle a été longtemps un peu la leader, hein, et qu'elle a très mal vécu l'arrivée notamment de M. Saint-Laurent. Bon, c'est un milieu où il y a quelques histoires quand même, hein, et ça, on a gardé cette tradition-là, me semble-t-il.
Oui, tout
en tout cas, mille merci de nous avoir fait partager ce temps de haute couture. Et ça reste tout de même un milieu très créatif aussi. Et n'oublions pas que c'est une des industries françaises qui rayonne de par le monde. Donc pour cela, il faut quand même se tenir au courant. Merci beaucoup, ma chère. Et puis, passez une bonne
merci
soirée.
À vous, Olivier.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.